écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 3 janvier 1969. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie. À 15h, ce sera du reggae avec Zarma Farai, vous a présenté par DJ Poupa Christopher. Et à 17h, Radio FMR, c'est l'antenne à Booster FM sur les 89,1 MHz en modulation de fréquence sur la région de Toulouse. Mais dans l'immédiat, voici le divertissement que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Peut-être pour mieux rebondir d'ailleurs. Mais enfin,
passe-moi.
Non,
parce que moi j'ai dû lire ça avant.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Amis auditeurs, bonjour, merci de nous retrouver après une longue absence, 3 semaines sans nouvelles. Oui, c'est vrai, nous en sommes très désolés, mais l'année ne s'est pas exactement finie dans la joie et la bonne humeur pour nous tous. Néanmoins, nous espérons que 2009, malgré les importants bouleversements que nous voyons tous et que nous ressentons, aïe, bobo les fesses, se fasse dans la joie et la bonne humeur pour vous tous, bien sûr. Et ça commence super bien avec ce double cadeau offert à TF1 et à M6, à la fois la suppression de la pub en soirée pour le service public, mais aussi l'autorisation du placing commercial dans les émissions de télé. Alors, placing commercial, c'est très simple, vous prenez la première saison des experts Manhattan, CSI New York. Par exemple, la sonnerie de portable qu'on entend dans l'épisode numéro 4, le placing a coûté $200,000, donc pour y mettre dedans, c'était, je sais plus quelle sonnerie de portable ils ont mis. C'est ça, c'est-à-dire de la pub clandestine et intégrée dans le programme. Ben voyons.
And we're gonna start with this.
Alors croyez-moi, à partir de là, si Arthur a le moindre scrupule pour recevoir tout plein d'invités, Christian Clavier, Sophie Trucmuche, il n'aura pas de scrupule à les faire passer à la caisse pour dire « Ah oui, mais t'es gentil, mais ton film, on va faire payer le plaçage. Qu'est-ce que tu crois, ressortir des vieilles casseroles que tu détesterais voir ?» Ça coûte cher quand même. Ben voyons. D'ailleurs, un film formidable que nous empressons à ne pas aller voir. Le 4 février, c'est la sortie de LOL. Avec un petit TM à la fin. Je ne déconne pas, marque commerciale déposée. Un film qui n'est autre qu'un immense placing commercial pour MSN, le service de chat le plus pourri de la galaxie, sponsorisé par Microsoft. Et qui va immédiatement ringardiser les acteurs qui jouent dedans, c'est-à-dire Sophie Marceau, Christa Terré et Alexandre Astier. Rien que ça, les pauvres, je les plains. Je me demande s'ils joueront dans la suite, BIDE. Et si on envoyait de suite avec la revue de presse, ? avec le nouveau Psychopathe, le seul magazine sans tabou et zéro publicité. Au moins, il y a service public, si je puis dire. Le numéro 205 de janvier 2009, c'est un mensuel qui est vendu 4,50€ en kiosque. Est un spécial militant, s'il vous plaît. Et point de vue militant, eh ben, il y en a une sacrée daubée avec Besseron, Delambre, Félix, La Serpe, Jean-Luc Coudray, Fab Caro, Soulcier, Jourgue et les petites brèves de Alain Godet qui à chaque fois propose son abécédaire des insolites sur le sujet. Et donc, eh ben, les insolites sur les militants, un N comme nudisme, un londonien de 28 ans, Vincent Betchel, militant acharné de la cause nudiste, a été convoqué par le tribunal de Sussurroir pour avoir troublé l'ordre public en se promenant nu plus d'une centaine de fois dans les rues de Londres. Vincent Betchel se présenta nu à son procès, ce qui obligea le président Bathurst Northman de lui intimer l'ordre de rester assis dans le box des accusés pour ne pas laisser paraître que la partie décente de son anatomie. Le prévenu, qui était resté nu durant les deux jours de son procès, sollicita et obtint, par l'intermédiaire de son avocat, que le tribunal fût mieux chauffé. Tu m'étonnes. À côté de cela, une autre info rigolote sur les militants, c'est S comme suffragette. En 1912, la lutte des suffragettes anglaises, encore une fois, est à son comble. Les militantes déversent de l'acide dans les boîtes aux lettres, détériorent les tableaux au British Museum, posent des bombes, incendient les églises. Cette contestation atteindra son paroxysme en 1913, lorsque Emily Davidson, l'une des plus actives militantes du WSPU, n'hésitait pas, le jour du Grand Prix d'Epsom, à se jeter sous les sabots du cheval portant les couleurs du roi. Piétinée, elle mourra de ses blessures. C'est pourtant les blessures et plus d'un million de morts de la Première Guerre mondiale qui finalement donneront le droit de vote aux suffragettes en Angleterre, donc aux femmes. En France, on a attendu la Seconde Guerre mondiale. On a été moins fin sur ce coup. Voilà. C'est dans le Psychopathe numéro 205 de janvier. Je sais pas, je te le propose, Duce. Et Duce, ben, il m'a montré le nouveau ciné hebdo qui est sorti mercredi dernier avec une jolie surprise dedans. Dans Ciné Hebdo. Un dessin incunable de Franquin.
Ah oui, non, je pensais à cinéma, dans cinéma, tu vois, j'étais pas du tout dedans.
Tout le monde se fait avoir.
Non, voilà, bon, l'hebdomadaire de ciné, donc, qui va bientôt foutre Charlie Hebdo à la poubelle, qui est uniquement, cette semaine, qui est uniquement un 8 pages de dessin. Il n'y a que deux nouvelles de personnages quand même relativement éminents. Patrick Reynal, ex-directeur de la série noire, ex-auteur, Jean-Bernard Pouilly, c'est-à-dire le créateur de...
Du Poulpe,
bien sûr. Et sinon, comme il l'avait déjà fait il y a une quinzaine de jours ou il y a trois semaines, les auteurs responsables de Ciné Hebdo s'attachent à nous éditer des petites choses qu'ils avaient dans leur bordel personnel, qu'ils ont amassé depuis des années. Alors, il y a 15 jours, 3 semaines, on avait droit à un collage de Jacques Prévert. Et là, dans le numéro de Ciné Hebdo de cette semaine, qui est sorti mercredi dernier, on a droit à une page de croquis de Franquin, mais qui ne sont pas à mettre sous toutes les mains. Je veux dire, c'est vraiment pour adultes. Là, il n'y a pas de problème.
C'est clair,
vu le sujet,
c'est clair.
Mais on va pas vous le dévoiler.
Au moins, entre Gaston et Moiselle Jeanne, on sait.
Ah oui, on sait. Là, on sait. Il n'y a pas de problème.
Voilà.
Ils sont très proches. Très, très proches.
À côté de cela, qu'est-ce que tu as, ma foi, du comics?
Ah bah oui, bien sûr, du comics avec... Comic Box, il est sorti. Il y a déjà un petit bout de temps. Et dans ce numéro, alors là, bon, ils se sont dit, on va quand même taper un petit peu fort, quoi, avec quand même quelques personnages majeurs. Interview de Joe Quesada, qui n'est autre que le grand patron
de Marvel,
voilà. C'est le directeur de publication de Marvel, c'est-à-dire c'est le mec qui est juste en dessous de Stan Lee, quoi. Il est juste en dessous.
Ouais, enfin, Stan Lee, lui, il est juste au conseil d'administration et puis.
Il a quand même son mot à dire, mais tout ce qui concerne l'éditorial, c'est Joe Quesada. Ensuite, on a encore un autre grand qui, lui, a l'air d'être un habitué parce qu'il y avait déjà eu une interview de lui dans Comic Box, je crois, il y a un an. C'est Jeff Loeb, qui est un auteur scénariste protéiforme, puisqu'il apparaît et dans les comics. Bon, il a commencé par les comics, mais également à la télé et au cinéma. Jeff Loeb, il a fait partie du pool d'écriture de Heroes. On le voit également comme producteur exécutif de Law and Order, c'est-à-dire New York District. C'est toujours très intéressant ce qui racontait ça, qui est vraiment très très bien. Il a également un petit peu écrit dans Smallville, dans Lost également. Il est toujours actif dans le domaine des comics, hein, vu que il va se mettre à Hulk et il dessine également, il écrit également dans d'autres petites sorties. On a également un truc vachement intéressant. Alors, il y a tout un topo sur The Spirit, actualité oblige, vu que le film est sorti mercredi dernier, hein, avec un petit historique pour ceux qui savaient pas qui c'était et qui remet bien les choses en place, hein. C'est-à-dire qu'il va, pour les gens qui connaissent pas le Spirit, c'est vraiment la triple page qu'il faut lire, hein, pour se mettre bien dans l'ambiance.
C'est un excellent résumé, vraiment.
Pour faire un petit peu la différence avec le film, si vous êtes allé voir le film.
Et qui n'a pas des critiques très positives.
Voilà. Alors, dans la catégorie on va faire comme les auteurs de comics et comme une certaine maison dans la série, les What If, qui sont vachement connus et chez DC mais un petit peu plus chez Marvel, c'est-à-dire on suppose que
au lieu d'en avoir trois,
et si les méchants avaient gagné, par exemple, ça donne House of M, c'est-à-dire que c'est Magneto qui a gagné les super-héros positifs qu'on connaît, les X-Men et tout ça, ils sont relégués au rang de fuyards, de vilains, hein, et c'est les super-vilains et les vilains qui règne sur le monde. Et là, Comic Box a eu une excellente idée, hein, c'est de faire un what if. What if si Marvel n'avait pas existé, et donc pose la question à pas mal d'auteurs, hein, dont Joe Quesada,
oui,
justement.
Je me souviens du cri du cœur de ta chère et tendre Christine qui a fait non, surtout pas. C'est assez rigolo.
Ouais, ça, c'est assez rigolo. Donc, et ça, c'est aussi à l'occasion d'un anniversaire qui aura lieu tout au long de l'année, qui va fêter ni plus ni moins que les 70 ans de Marvel.
Ouais, à côté, hein, les 40 ans de Glenna, c'est les petits genoux.
Ouais. Non, mais bon, attends, ils sont quand même plus jeunes que DC. Bon, il faut remettre les choses en contexte.
Voilà,
bon,
mais ouais. Marvel, ça a été au départ les éditions Timely, si je me trompe.
Timely Comics. On a la BD qui est absolument excellente, hein, et qui concerne la chose, Ben Grimm. Et alors là, Ben Grimm qui invite tous ses copains au poker, hein, alors il y a Captain America, Spider-Man, pour citer que les plus connus. Et Ben Grimm qui va faire une petite chose assez spéciale, c'est qu'il va passer sa bar mitzvah. Alors c'est assez rigolo parce que on le voit étudier les différentes choses qu'il faut connaître pour pouvoir passer sa bar mitzvah. Enfin bon, c'est vraiment très très rigolo, quoi. C'est très très bien. C'est écrit par Dan Slott et dessiné par Kieran Dwyer. Dans ce numéro, on a également Tim Bradstreet en interview, Robin Firth et Richard Isanov, Charlie Adler, hein, et Howard Chaykin. Hein. Ça, c'est pour les différents entretiens. Donc, tout ça dans ce numéro de Comic Box, où on nous annonce qu'il va falloir surveiller les kiosques ce mois-ci, car va sortir un numéro hors série de Comic Box. Et hors série de Comic Box, on se demande, mais sur qui ? Eh ben, sur l'événement que tout le monde attend, hein. Et
LOL, le film ?
Non. Watchmen, hors série Watchmen, donc, de Comic Box, qui va sortir au courant du mois de janvier. Donc, surveillez ce qui va se sortir dans les kiosques. Alors, j'ai pas du tout eu le temps de préparer.
On va faire les comics peut-être tout à l'heure, puisque tu tenais à faire le kawa.
D'accord, ouais,
je vais faire les sorties canards pour le trimestre annoncé. Et puis voilà. Kana, c'est l'éditeur spin-off, si je peux dire, de Dargo, qui est consacré exclusivement à la mangas, hein, donc à la bande dessinée principalement japonaise, même s'ils ont fait du sud-coréen et ils ont fait du chinois par ailleurs, voire même ils ont commissionné des séries. Eureka 7, le tome 6, donc, va sortir de cette série de SF qui était assez hilarante au départ dans l'idée, c'est-à-dire des rebelles qui utilisent des grands robots pour faire du surf. Bon, c'était très sympa, et en fait, gros retournement, quand on a chroniqué les tomes 4 et 5, après avoir laissé de côté tome 2 et 3 parce qu'on s'est dit, bon, c'est peut-être insipide, et en fait, grosse erreur, non, c'est une très bonne série. Le tome 6 devrait arriver normalement en janvier, là maintenant. Accessoirement, on a une nouvelle série qui est dans la lignée de Death Note, qui a été un excellent succès commercial pour Kana. C'est Trinity Blood qui sort le troisième tome, donc devrait arriver dans la collection d'Arcana normalement ce mois-ci. Donc une BD de Kiyo Jio et Sanao Yoshida. Accessoirement, une nouvelle série qui s'appelle Sawako. Le tome 1 sort dans la collection Shoujo Kana. Donc c'est plutôt pour du sentimental, quelque chose de sympathique et de mignon et de gentillé. C'est plutôt pour les filles. C'est Karuo Shina, dont il me semble d'ailleurs qu'on a déjà eu une précédente série. Donc l'histoire d'une fille qui doit apprendre à accepter quand même l'amour, même si elle a toujours été rejetée à son collège parce que elle est pas forcément mignonne et que le garçon qui est le plus joli va tomber amoureux d'elle. Goyo est une série plutôt sur plus adulte sur la condition de samouraï, plus exactement de ronin, c'est-à-dire c'est un samouraï qui n'a pas de maître, qui n'est pas rattaché à un féodalement et qui est donc une espèce de lame à louer, si je puis dire. C'est de Natsume Ono, on en reparlera là aussi beaucoup plus tard. La suite du journal d'une disparition vient de sortir, c'est le journal d'une dépression. Oui, Deo Azuma raconte justement sa dépression, ses périodes d'alcoolémie puis ensuite de sevrage et toute sa difficulté justement à essayer de reprendre pied, et il a fait ça en bande dessinée. À ce qui paraît, c'est plutôt sympathique et humoristique. Parler de la dépression est toujours très difficile, mais étonnamment, pas mal de grands dépressifs sont très drôles. Donc voilà, Hideo Azuma, ça devrait arriver normalement là aussi, courant de ce mois. Donc je crois que la livrée sera la deuxième semaine. On attend de voir Blue Dragon Ral Grad, qui est une action délirante, un peu dans le style de Naruto, qui sortira en février, donc et qui ne sera qu'en 4 tomes. Donc ce sera une histoire complète en plusieurs tomes qui ira relativement vite. Et puis c'est tout à peu près de ce que l'on a vu, du moins dans le catalogue de chez Kana, du peu qu'on a parcouru et que l'on n'a pas lu. Bah oui. Sorties bande dessinée dans l'immédiat que vous pouvez déjà se procurer évidemment en librairie CD maintenant avec Gunm Last Order, 10e tome de la série fille, de la série phare de Yukito Kishiro. Kishiro vient de sortir chez Glénat. On l'a plusieurs fois parlé de cette série, mais depuis 2 ans, il n'y avait plus rien. Alors on va reprendre. Si vous voulez plus d'informations, vous tapez supplementweekend.fr et vous cherchez Gunm, G-U-N-N-M, et là, vous avez tombé sur toutes nos précédentes chroniques depuis 12 ans sur cette série. Et donc, après une vie de fait d'armes hallucinant dans un monde sans aucune pitié, Gally, la charmante petite cyborg de combat, a voulu sauver son ami Lou. Ou plutôt, la puce qui émule son cerveau. Dans la couveuse, l'endroit le plus secret et le mieux gardé de Jéru, la ville en orbite au-dessus de la Terre, qui est tout en haut de l'échelle de Jacobs, au-dessus de Salem, qui est la ville qui est flottante juste au-dessus de la Terre. Elle est allée monter, mettre le bazar, elle est allée chercher très haut, puisqu'elle est partie de Salem pour cela. Elle a découvert ce qu'était Jéru, effectivement, et elle s'est inscrite au plus terrible des tournois des arts martiaux, pendant lesquels elle s'est éclipsée pour infiltrer l'ordinateur Merlin. Surprise, surprise, les deux derniers tomes racontaient en flashback l'histoire de la dernière période glaciaire suite à un hiver nucléaire. Comment fut conçu Merlin? Et sur quels crimes et quels espoirs furent construits Salem, Jéru et l'échelle de Jacobs? Mais pendant son infiltration, le terrible savant fou Destinova arriva à se faire cloner par ses nanomachines, prend le pouvoir sur Salem et décrète que le flan est un plat national complètement starbé et branque, absolument givré. Quel génocide prépare ce clone, alors que l'original est censé aider Gally quand même dans l'histoire. Pourquoi laisser ces monstres de puissance qui sont devenus immortels par la technologie se démembrer à grands coups de marteau pilon? Et surtout, pourquoi remplacer tous les cerveaux de l'espèce humaine par des puces électroniques? Yukito Kishiro avait lancé la série originelle Gunm, une sorte de Mad Max cyberpunk sur une terre désolée, une suite de combats dantesques où les cyborgs dérivalisent de grobilisme pour finalement se faire éclater par un petit brin féminin, ultime arme de combat maîtrisant le Zeist, un art martial développé sur Mars, justement. Une adaptation qui avait déjà, une série Gunma qui avait connu une distribution pour le film l'OAV, le film qui a été adapté en animation en 1996, si je me souviens bien, mais sous le nom de Battle Angel Alita, qui est le nom de distribution aux États-Unis, qui est pas franchement convaincu, et on parle très régulièrement d'un très très grand réalisateur qui veut absolument l'adapter, à savoir James Cameron. Mais on attend toujours, c'est pour l'instant le Production Hell depuis plus de 10 ans maintenant, quand même. La série Gunma Last Order s'intercale dans le dernier tome de l'histoire Gunma, et fait remonter Gally vers l'espace où elle affronte le système solaire en entier. Yukito Kishiro mène seul sa barque, aussi bien sur le scénario que sur le dessin. Il fait partie des rares mangaka commerciaux à ne pas avoir d'assistant. Il a une imagination débordante et de multiples inspirations graphiques, que ce soit Geoff Darrow, Masamune Shiro, Simon Bassley, s'il vous plaît. Mais en connaît-il lui-même qui va pas un peu trop loin? Ainsi cette étrange ligne de dialogue, relevée page 56 de ce tome 10. L'immortalité, c'est comme un mangaka qui n'a pas de limite. Comme le dessinateur dont le travail ne peut s'achever faute de limite, des mauvaises choses qu'il laisse de côté finissent fatalement par le rattraper un jour. Est-ce un aveu d'impuissance à ses fans impatients ou un mea culpa envers son éditeur? Un message bien sibyllin pour une série qui en est désormais publiée depuis 15 ans. Cela reste une série tripante, pleine d'imagination et de talent. On se demande si elle n'est pas en train de s'embourber à force de sortir dans cet album tout plein de Deus Ex Machina tout au long de ce 10e tome, tout comme les lapins sortent du chapeau du magicien. Retour vers la bande dessinée franco-belge avec Corédan, la saga des dragons. Le tome 1 s'appelle L'Éveil et donc c'est une nouvelle série qui vient de sortir chez Soleil, scénarisée par Guiz et Cuidé et dessinée par Dranob. Où en fait, C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait partie de la peuplade des bois, Kashina, qui un jour, eh ben, la forêt millénaire qui est plus vieille que la race humaine, eh ben, est détruite par leur soi-disant ancien allié, les chevaucheurs de dragons. Accompagné de Démétrius, un jeune érudit, et d'un animal un petit peu bizarre qui ressemble en fait à un gros fauve qui fait tout plein de ronrons, elle affrontera les puissants élus draconiques et elle est prise tout d'un coup de visions sublimes sur ce que sera l'avenir ou le mensonge, ou elle ne sait pas trop, mais elle sait qu'il y a quelque chose de tapis quelque part sous l'eau dans une cité. Alors c'est amusant, sauf que voilà, il est question de magie bleue, magie verte, magie rouge, et puis même de magie grise. On a l'impression un peu de jouer à Magic the Gathering, vous savez, le jeu de cartes fantastique, avec des points de couleur sur la magie et tout ça. On voit de suite inspiration. Il y a aussi un peu de rêve de dragon derrière, jeu de rôle des années 80. Et le problème, c'est que c'est super convenu. C'est du médiéval fantastique qui, franchement, à mon sens, aurait mérité d'être beaucoup plus travaillé. Au point de vue dessin, il y a des moments où graphiquement on a des très très belles scènes, mais il y en a d'autres qui semblent avoir été travaillées, je vais dire, un petit peu, alors surtout au début, ce qui est vraiment dommage parce que c'est complètement rempli de fantaisie, enfin il y a vraiment, il y a une certaine créativité quelque part. Après, je ne pense pas que ça en laisse un souvenir impérissable. En fait, même le fait qu'ils sortent en très grand format, vous savez, c'est le format un peu plus grand qu'A4, 23-30 cm, excuse-moi, cartonné, couleur, je pense que ça aurait peut-être dû être un prix un petit peu plus modique dans un format genre Dupuis, c'est-à-dire ben justement 21-27. Parce que le trait aurait gagné justement à être reproduit de manière un petit peu plus fine.
Non mais tu parles de prix, mais c'est normal, hein. Il faut bien que Mourad il puisse payer ses joueurs de rugby.
Ouais, mais n'empêche que mettre 13 euros, c'est normal, c'est une offre de débutant. Le problème il est là, c'est qu'en France il n'y a plus de service de prépublication, il n'y a plus de magazine de prépublication comme Spirou ou... justement, on parlait tout à l'heure de Psychopathe, c'est pas la prépublication. On parle de Comic
Suivre,
Box,
on
parle Comic Box, c'est un outil, mais je dirais critique.
Oui.
Baudoy qui a disparu est un outil critique, mais je veux dire, il n'y a plus justement à suivre comme tu parles, Pif Gadget,
Pilote,
et tout le reste. Si Pif Gadget a été relancé, mais ça ne fait pas pour l'instant d'album. Et de ce côté-là, et ben justement, c'est un peu triste. Il reste quelque chose. Donc, les éditeurs sont obligés de sortir. On en est, je rappelle, à 4000 nouveautés par an. Comme l'a encore relevé Gilles Ratier, secrétaire de l'association des critiques de bande dessinée. Non, c'est vrai, je fais partie. Et qui a fait son travail comptable du nombre de sorties. Ça reste effarant. Et dedans, il y a plein de jeunes dont on ne peut pas tester autrement. Soit par leur blog. Mais bon, travailler pour leur blog, c'est pas rémunérateur. Soit, ben, justement, en sortant directement un album. Comme ça. L'idée est intéressante, mais c'est un peu un mélange, je vais dire, de Rêve de Dragon et de Magic the Gathering. Je répète pour JB qui vient d'arriver, voilà. Graphiquement, y a encore un petit défaut de maîtrise, et même si l'histoire est super, super, super convenue, on attendrait quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant. Corédan, la saga des dragons, le tome 1 s'appelle L'Éveil. C'est Guit, c'est Cuidé, et dessiné par Dranob. On attend de voir le tome 2. Peut-être que ce sera beaucoup plus intéressant et peut-être que quelque chose viendra. En tout cas, ce sont des auteurs qui ont un potentiel. On ne va pas le leur retirer, loin de là. Il y a encore à travailler et c'est une œuvre pour commencer et justement pour voir comment ils vont s'en sortir. Non, je l'ai pas écrit. J'avais pas le temps tout à l'heure, JB, et pas de retrouver le script. Et change de micro, s'il te plaît. Voilà, on est en direct. C'est Radio FMR 89.1 MHz. Bonne année, JB.
Bonne année.
Bonne année, bonne santé et tout le reste.
Meilleur vœu.
Ah, merci beaucoup. On a oublié de les souhaiter à l'émission qui était juste avant nous et tout ça. Chris et Mitrick ont fait une série qui s'appelle Kokabura, Kokabura. Ensuite, ils ont fait une série fille qui s'appelle Kokabura Universe. Sauf que ils ont fait le premier tome et ensuite ils l'ont laissé à d'autres. Merci. Ils ont laissé à d'autres. Les reines de la série, ils les ont juste vaguement dirigées. Et c'est donc les prêtresses d'Isis qui est là. Voilà. Si tu peux reprendre le sucre en même temps, ce sera sympa. Oui, hein. Samedi midi, il faut le café pour tenir pendant l'heure du déjeuner. Donc Kokabura Universe, le tome 10 vient de sortir, ça s'appelle Les Prêtresses d'Isis, donc, et c'est sorti chez Soleil.
C'est ton combien tième de café là?
Zéronième. Non, j'en ai pris un double ce matin. 10 ans avant les événements décrits dans la série Kokabura, Azael est une jeune fille de 16 ans, une novice dans la cité interdite de la planète Isis, le culte secret de la déesse égyptienne qui n'est autre qu'un mouvement plaçant de très jolies jeunes filles auprès de mâles influents dans l'espoir d'arrêter la guerre insensée opposant les humains et surtout le secret espoir d'enfanter l'empereur qui va apaiser, je vais dire, la race humaine dans sa guerre intergalactique. Azalel, donc, doit faire une sorte de présentation de thèse de son éducation. Construire un parfum. Un parfum qui l'habillera toute sa vie de prêtresse d'Isis et qui lui permettront de manipuler les émotions des autres et donc de pouvoir suggérer l'esprit d'Isis, celui de la paix. Elle n'est plus qu'à quelques petits ingrédients de ce parfum fabuleux, mystérieux, envoûtant en fait, mythique. Le conseil d'Isis place énormément d'espoir en elle, vu ses talents immenses, aussi bien en herboristerie qu'en analyse politique. On lui confie néanmoins dans ces dernières semaines une ultime jeune recrue à guider, une fille de 8 ans qui s'appelle Lil, un nom qu'on retrouvera dans l'histoire principale. Mais le destin d'Azael va basculer quand un homme va arriver à rentrer dans ce gigantesque gynécée secret. Un homme qui, contrairement aux soldats de la garde prétorienne, n'est pas castré électroniquement. Bref, quelqu'un qui pourrait éventer ses secrets, voire pire, faire basculer une fille. Quand on pense aux espoirs que représente Azael pour ses aspirantes Bene Gesserit, et oui, on pense immédiatement à Dune dans ce complot, on se dit que leur rencontre va faire des étincelles. Autre série fille d'un autre univers de science-fiction héroïne féminine. Oui, je sais, encore. Désolé. Sauf que le dessinateur Chris, célèbre pour ses superbes filles aux chevelures ondulantes et aux immenses regards, il cède.
Ouais, pas que ça. Hein.
Il cède scénario et crayon à des tiers, et quelle surprise. Le style d'Aurore, la dessinatrice, plus portée sur les shoujo manga, les séries pour jeunes filles, donne une vision graphique totalement différente par rapport à celle de Chris. Et je crois que JB, là, il est en train de feuilleter l'album, il connaît le dessin de Chris. Non, d'accord. Bon, oui, tu connais quand même.
Oui,
t'avoues quand même que c'est extrêmement différent. C'est...
Ah, ça change complètement.
Ça change complètement. Voilà. Et que dire ? Eh ben, donc, c'est un style shoujo manga. C'est une vision graphique complètement différente à celle de Chris. Mais c'est loin d'être compatible puisqu'en fait, ben, ça se coule tout à fait naturellement dans cette histoire. C'est absolument superbe comme résultat. Ça convient tout à fait à l'univers féminin décrit dans l'album. Et c'est une très belle révélation, qui plus est. Puisqu'on rend de ce côté-là, graphiquement, elle est étonnante. Mathieu Marot lui fait un scénario qui est un petit peu plus convenu, hein, même si je ne sais pas quel a été le degré de liberté qu'on lui a donné dans Kokabura Universe. En tout cas, vraiment, c'est un bouquin qui est distrayant, distractif, mais qui est pas mal du tout. Kokabura Universe, tome 10, s'appelle Les Prêtresses d'Isis, vient de sortir chez Soleil, de Chris et Mitrick, mais surtout scénarisé par Mathieu Merol et Aurore. Non, moi je suis pas un X-Men. Je suis l'homme dont le prénom commence par X.
Ah ouais, non, mais
justement,
le professeur Xavier n'est pas un X-Men.
Non, il les a fondés.
Ah ouais. Oui, mais c'en est voilà. Pas un.
C'en est un caché, moi je dis. On devrait le brûler sur la place publique, sur la place du Capitole. Celui à Washington, je veux dire, bien sûr. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Du sport pour le comics, la fournée qui est arrivée.
Il y a la fournée de Marvel Heroes. Alors tout d'abord, le hors-série qui est un spécial Jeunes Vengeurs. Les Jeunes Vengeurs avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes à la suite.
J'ai juste oublié de faire un gag. JB, tu penses quoi de notre nouveau cadre? T'as vu que depuis le Noël, on est passé en 16-9e? on est en format large. T'as pas remarqué? Bon, oui, t'es pas un peu trop à gauche là?
Voilà, ça va, je suis centré.
Attends, je te recentre, voilà, voilà, un petit peu mieux. Voilà, on n'est pas sans stéréo. On passe aussi en stéréo sur le podcast.
Donc, avec pour la présentation des jeunes vengeurs, nouvelle formule hein, qui a déjà démarré.
Non, non, il faut que tu restes devant
si
le micro.
Si ça vous emmerde, je peux aller refaire un café. Il n'y a pas de problème.
Hein. Non, reviens, Duce.
Et donc, chaque épisode, c'est-à-dire il y a 6 épisodes, et chaque épisode va nous présenter bien un des membres de ces jeunes vengeurs, avec Patriot tout d'abord, qui est le petit-fils du premier Captain America. Ensuite, on a Hulkling, qui est le fils caché de Captain Marvel et d'une princesse Skrull. Même Captain Marvel, il savait même pas qu'il avait un fils et tout quoi. Alors ça, c'est assez émouvant d'ailleurs hein, comme épisode, hein, parce que bon bah c'est Hulkling qui décide d'aller voir, d'aller rencontrer son père pour lui dire oui papa, je suis ton fils, ta la la et tout. Enfin c'est assez émouvant, il faut le dire. Hein. Ensuite on a Wiccan et Speed
qui est un fils caché.
Wiccan et Speed qui sont des jumeaux conçus par magie par la sorcière rouge et la Vision. On a Stature qui est la fille de Scott Lang. Scott Lang, c'est l'orme fourmi hein, qui est décédé justement contre la bataille contre Wanda.
C'est plus passionnant que la fille cachée de François Mitterrand.
Et on a Œil de Faucon, la jeune femme à qui Captain America a légué l'arc et le nom de Clint Barton, mort à l'époque. Donc tout ça scénarisé par Ed Brubaker, Brian Reed, Roberto Aguirre, Paul Cornell, Kevin Gabius et Matt Fraction. Dessiné par Alan Davis, Mitch Breitweiser, Mark Brooks, Alina Urusov, Harvey Talibao et Paco Medina. Ah ben, et je vous passe les encreurs et les colorieurs parce que bon, bah, sinon ça va faire beaucoup de monde. Ça, c'est le Marvel Heroes hors série numéro 4. Donc, hein, vraiment très bien. Moi, j'adore. Hein, franchement, j'adore. Hein. Je connaissais pas tellement les jeunes vengeurs et tout, mais c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Sinon, dans le traditionnel, c'est-à-dire dans le numéro 14 de Marvel Heroes, on suit les aventures de Thor, hein. Et pour une fois, eh bien, ce n'est pas Olivier Coppel au dessin. Olivier Coppel est en train de faire autre chose. Et donc, eh bien, le dessin, eh bien, c'est Marko Djurjević qui illustre cet épisode de Thor, où Thor va être à la recherche de son père, Odin, pour savoir pourquoi Odin a disparu, pourquoi Odin est mort. On a également, bien sûr, Hulk, avec le Hulk rouge. Et là, eh bien, à la fin de l'épisode du numéro 14, eh bien, le Hulk vert rencontre le Hulk rouge. Que va-t-il se passer à votre avis?
Ça fait du marron.
Ça va faire du baston à fond les manettes. Dans les puissants vengeurs, eh bien, c'est toujours l'histoire de la bombe Venom, avec les vengeurs qui ont réussi à maîtriser le Doc Fatalis qui avait envoyé un virus Venom sur New York, quoi, histoire que tous les habitants de New York se transforment en Venom. Ça, ils ont réussi à juguler le fléau et ils sont allés dans le passé pour bien essayer d'empêcher Fatalis justement de pouvoir déverser ce virus Venom et reviennent dans le présent, quoi, à présent pour pouvoir capturer Fatalis qui est quand même coupable hein, de crimes contre l'humanité. Il faut dire qui est. Hein. Mais Fatalis lui aussi va dans le passé et va chercher l'aide d'une certaine fée, la fée Morgane. On a également l'initiative, hein, c'est-à-dire c'est les Vengeurs mais qui sont allés encore à l'école, hein, l'équivalent de l'école du professeur Xavier. Hein, et ça aussi c'est une série qui est toute nouvelle, hein, qui a été initiée justement avec les premiers numéros de Marvel Heroes et qui est assez intéressante à suivre, quoique assez complexe quoi quand même. Hein, il faut suivre vraiment quoi, faut pas l'apprendre comme ça, il faut vraiment commencer depuis le début parce que sinon on est assez vite largué tout ça. Donc dans ce nouveau numéro de Marvel Heroes, et on a également
dis-le plus envolé,
c'est-à-dire
Marvel Heroes, je sais pas, dis-le mieux.
Et on a également un épisode des Puissants Vengeurs scénarisé par Jeff Lubb dont je parlais juste avant, avec Ed McNeilles au dessin. Et oui. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore, quoi? Il y a également une pub qui est assez intéressante. En fait, c'est un teaser hein, qui paraît dans toutes les sorties Marvel Panini Comics périodiques, à savoir qu'à partir du mois de février 09...
Oh, merde.
Oh merde, tu l'as dit. Tu l'as dit. Secrète invasion, c'est ce qui va arriver. On avait déjà eu un aperçu dans un épisode des Puissants Vengeurs. C'est quand justement quoi, quelqu'un ramène le cadavre d'un super-héros qui s'avère être un Skrull. Et on se demande ce qui se passe. Alors, est-ce que tous les super-héros sont des Skrulls déguisés ? Bah, on le saura à partir de février prochain, donc, dans Marvel Heroes, entre autres, hein, parce que ça va être un crossover sur l'ensemble des différentes sorties Marvel.
Petite pause musicale avec la bande originale de Ghost in the Shell, Standalone Complex et Yoko Kanno avec Tim Jensen, Run Rabbit Junk. FMR 89.1 MHz, supplément week-end numéro 182. On reprend derrière, excusez-nous, cela arrive, ça s'appelle un CD qui saute. Voilà, ça m'apprendra à rester sur cette techno. La chronique vous est présentée en Dolby Stéréo Surround par JB. Bonjour JB.
Bonjour, bonjour. Et parmi les cadeaux de Noël que nous avons eu cette fin d'année cinématographique, nous avons pu voir sous le sapin, par exemple, le dernier opus des frères Coen, Burn After Reading ou À brûler après lecture si tout bon nous écoutez. Bon, déjà, le pitch en lui-même est suffisamment tendu pour en devenir intéressant.
Bah comme d'habitude hein.
Ouais, comme d'hab.
Non, celui-là, il est franchement ça, bien sucré, et bien salé.
Vous verrez son sourire, il prend tout le 4-16-9 là.
Waouh.
En fait, t'as Osborne Cox qui est joué par Malkovich, qui est analyste à la CIA. Bon, il est convoqué par une réunion ultra secrète à son agence. Malheureusement pour lui, il découvre malheureusement rapidement l'objectif de cette réunion. Il est renvoyé. Bon là, tout à fait normal.
Elles sont où les armes de destruction massive ?
Non.
Dans la sabote !
Il est beaucoup plus fin et beaucoup plus pathétique que ça, bien au contraire. Cox, évidemment, ne prend pas ça très bien. Et il rentre chez lui à Georgetown pour écrire ses mémoires et noyer ses ennuis dans l'alcool ou inversement réciproquement. Bref, voilà, quoi, vous savez. Sa femme, Cathy, jouée par Tilda Swinton. Vous savez, celle qui est assez fine, toujours assez cinglante, assez froide, elle est vraiment très bien. Mais elle fait la consternée, elle n'est pas vraiment surprise. Hein. En fait, elle-même a une liaison avec un certain Harry Farrer, clowné en main fidèle, totalement parano. Ça vaut vraiment le détour.
Et laisse-moi deviner, il serait pas sénateur ce mec ?
Non, il est Marshall.
Parce que ça ressemblait à une histoire qui est arrivée pendant en 2004.
Non, malheureusement, c'est pas du tout ça. Et Clooney est marié lui-même de son côté. Bon, déjà, on commence à faire un petit sac de nœuds. Allez, pendant ce temps, je vous rajoute d'autres petits sacs de nœuds. Mais ça reste soft hein, pour le moment. Hein. Quelque part dans une banlieue de Washington, des années-lumière de là, Linda Litzke, jouée par Frances McDormand, Madame Cohen dans la vie réelle.
Et Joël ou Ethan?
Ethan.
Ah ouais.
J'ai vérifié.
Bien.
Est employé au club de gym et a du mal à s'en concentrer sur son travail. La seule chose qui l'intéresse, c'est une opération de chirurgie qu'elle ne peut pas s'offrir. Bon, là, si là vous m'avez suffisamment bien suivi, il y a bien du mobile bien suffisamment stupide à la Cohen. Et franchement, ils sont très forts pour ça. Bon, en fait, dans la vie, elle compte sur son collègue, un certain Chad, joué par Brad Pitt, pour l'épauler dans la vie, entre les
ah oui, d'accord.
Agréable.
Oh putain, le casting.
Et pour l'aider dans son travail au boulot, évidemment. Elle-même n'est même pas du tout consciente que son directeur, que son patron, est amoureux d'elle. Mais bon, bref, basta, quoi. Bon, allez, là, on commence à faire le gros sac de nœuds. C'est lorsqu'un CD contenant des informations destiné au bouquin du fameux Cox de là de John Malkovich tombe accidentellement entre les mains de le je vais essayer de me relire de Tilda Swinton et de Brad Pitt. Là tous deux commencent à se dire ça devient intéressant. Évidemment, tout ça c'est un faux prétexte pour concocter un savant mélange de situations aussi pitoyables que le jeu d'acteur savoureux. Franchement, Clooney en parano, il le fait, mais palme surtout à Brad Pitt.
Bah déjà dans les pubs N, parce qu'ils n'ont pas encore payé. Oui. Il commence à être parano envers les filles. Hein. Et là tu dis que c'est parce que là déjà attends, parce que rien que le casting t'a donné, ça envoie. Un film des frères Cohen. Bon, il n'y a pas toujours eu des très bons de ce côté-là, mais en général, ils sont d'un très haut niveau.
Dans l'ensemble, ça vole toujours assez haut. Moi, j'en connais pas un de franchement où j'en sortis en disant putain, celui-là, il est raté. Alors que d'autres réalisateurs, au bout de tant de films, tu peux te dire ouais, bon. Ben...
Par contre, il y a deux périodes qu'affectionnent bien les frères Cohen. En général, ils font soit un film dans la période actuelle, soit ils font dans l'histoire immédiate, puisque c'était 6 ans auparavant pour The Big Lebowski, soit ils font un film dans la période années 50-60. Là, celui-là, il se place à quel moment?
Actuel, totalement actuel.
D'accord.
Mais en général, ils font aussi, ils varient entre de la comédie assez noire ou vraiment du polar, le film noir. Assez trash quand même. Hein. Et en fin de compte, là, c'est vraiment un petit savoureux mélange des deux. Franchement, les scènes rebondissent, elles s'entrechoquent. Le film est court, il dure 1h30, mais il a un rythme vraiment soutenu et il est franchement jouissif. Bon, c'est pas un des meilleurs films, meilleurs films qu'ils ont fait. T'en ressens en disant que t'as passé un bon petit moment. C'est très plaisant. Mais il y a des scènes vraiment, vraiment fabuleuses, quoi. C'est vraiment une comédie d'espionnage burlesque, écrite comme un vaudeville noir en se fichant de sa propre gueule, totalement loufoque et absurde. Tout ce beau monde fait ce qu'il s'est fait de mieux chez les Cohen. Le parfait crétin pathétique, mention spéciale comme je disais à Clooney, ou Brad Pitt en petit con aussi crédible dans sa crétinerie que par son physique. Il a les cheveux en brosse, il a les mimiques impeccables. Les films ne seront peut-être pas ce mémorable parmi la filmo, franchement, moi je trouve exemplaire de frères Cohen, mais il reste un bon petit film, toujours aussi fidèle à leur comédie et film noir comme eux seuls savent nous concocter. Donc, à conseiller vivement parmi tous les petits chefs-d'œuvre sortis récemment. Vous en voulez d'autres?
Pas besoin de plus, par contre, c'est dommage, je ne peux pas me connecter, alors si tu te sais de mémoire dans quelle salle il est disponible.
Les grandes salles, Megaplex, Multiplex, classique, Gaumont.
Ouais, ouais. Il est toujours en salle. Hein.
Dans la version VO Wilson.
D'accord, ouais.
C'est quand même ce qui est largement plus intéressant.
Et sans doute à l'Utopia, parce que c'est le petit film qui te ressort en général deux mois après. Ouais. Quoi.
Ouais, ouais. Burn After Reading, détruire après lecture, des frères Cohen. C'est marrant, ça fait un joli clin d'œil avec rien que pour vos yeux.
For Your Eyes Only, non, je trouve pas.
Non, c'est la mention qu'on mettait, qu'on met en général sur les documents. Que bon, non, il vaut mieux pas que ça sorte. T'es gentil. Ouais, ça s'appelle un CD qui démarre trop tôt cette fois-ci.
C'est l'effet la stéréo. Ils ont pas envie de travailler pour toi cette année.
Cette année, ouais, je sais pas. Ils sont Hugues Koltzmann, On My Hands fait partie de la compilation Fair 2009.
into my parlor. Come inside, my love. Walls are bare, but it's warmer. I'm afraid of the things I just can't stand. I'm afraid of the blood that's on my hands. Yeah. Come to me, my love. Lips so dry and hungry. Come and we can run. On the names we bury, I'm afraid of St. Peter's marching
Coltman, qui a été découvert avec son morceau On My Hands, un radio crochet de nos stations régionales.
Merci Jean-Noël.
Mais de suite, nous retrouvons Monsieur du Sport.
Ça fait un peu langue de pute, ça.
Non, pas du tout.
Merci Raymond. C'est bien entendu Raymond Lefebvre et son grand orchestre pour les rendez-vous du dimanche. Roger Lanzac, c'est à vous. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir d'hier et d'aujourd'hui, il n'y a plus de pub sur France 2.
À partir de lundi.
Ouais, à partir de lundi, sur ORTF 2, 3, 4 et 5.
Et il faut savoir que bien, ça fera 40 ans, en fait, qu'il y a de la pub sur les chaînes télé.
Et je crois que ça avait commencé par une superbe inauguration d'un téléspectateur qui a balancé son poste de la deuxième étage de la Tour Eiffel.
Ouais.
C'est de colère.
Je sais pas si vous vous rappelez la télé dans les années 70, voire dans le début des années 80. Il y avait toujours marqué RFP.
Régie
française de publicité. La Régie française de publicité qui a été inaugurée en 69, je crois, juste après les événements de mai d'ailleurs. Hein, je crois que c'était en juin 69, qui a été plus ou moins démantelée lors de l'arrivée de Canal+ en 1984, hein, parce que bon, bah justement, c'était une chaîne privée, donc qui n'avait pas les mêmes obligations et qui pouvait recourir à son propre, à sa propre régie de publicité. Et donc, de ce fait, eh bien, on a plus ou moins démantelé la publicité parce que ça, ça présageait, eh bien, l'éclatement de l'ORTF en différentes chaînes, chaînes privées, chaînes publiques, à savoir la vente de TF1, enfin, qui s'appelait encore la Une à l'époque, faut se rappeler. Et France 2, bien, ou Antenne 2, ou la deuxième chaîne, aura vécu 40 ans pratiquement avec de la publicité.
Attention, c'est pas une suppression totale. Hein.
Non, c'est à partir de 20h. Oui. Non, mais ça, bon, je suppose que les gens sont au courant. Là, c'est répété. Hein. Pour masquer les autres infos plus importantes, on en a fait des tonnes et des paquets.
Savoir le placing dans les émissions d'Arthur.
Sans problème. Alors, petite historique vite fait et de tête comme ça, quoi. La première chaîne, c'est-à-dire la télé française, démarre vers la fin des années 50. La deuxième chaîne.
Officiellement, hein, il y avait déjà eu des essais.
À la fin des années 40.
Des années 30, les émissions régulières en 38 et qui ont été reprises par les Allemands pour leur laisser en 41.
La deuxième chaîne, elle arrive expérimentalement en avril 64, puis deux mois plus tard, c'est-à-dire en juin 64, eh bien, c'est l'ouverture officielle de la deuxième chaîne française de télévision. La troisième, elle arrivera au début des années 70, hein, uniquement, quoi.
Voilà, et directement en couleur.
Et directement en couleur, bien
bande
sûr.
Bande de nantis. Et à l'époque, ils faisaient de la pub comme quoi c'était sans pub.
Voilà. Alors, cette semaine, il n'y aura pas de programme de télé concernant vos programmes actuels. J'ai essayé de vous faire un petit topo de pratiquement l'ensemble des séries qu'on pouvait voir durant les années 60, hein, sur la première et la deuxième chaîne.
Vas-y, c'est l'horloge. C'est qu'il est 13h.
Alors, on va passer les séries qui sont les plus marquantes, on va dire, hein, celles que tout le monde connaît, celles qui sont devenues cultes, quoique je vais quand même en citer quelques, hein, et on s'attardera plus sur des séries que pratiquement tout le monde a oubliées ou dont on se souvient vraiment très succinctement. Alors ça commence par celle qui est pratiquement la dernière, hein, quand tu prends un bouquin avec l'ensemble des séries et tout, c'est celle qui est la dernière, hein, c'est bien entendu
Zorro.
Ouais.
Je m'en doutais.
Avec dans le rôle principal Guido Catalano, qu'on avait bien entendu américanisé pour devenir Guy Williams, hein. Il y a également Gene Sheldon dans le rôle de Bernardo et Henry Calvin dans le rôle du sergent Garcia. Alors, il faut savoir que Zorro remonte à très très loin. Le personnage Zorro, il y a déjà au cinéma, dans le cinéma muet, au début des années 20, il y a déjà des versions de Zorro. Il y aura beaucoup de versions de Zorro dans les années 30 et dans les années 40. La première série de Zorro est créée en 1937, 12 épisodes, et le premier épisode Disney donc arrive en 1957. C'est la série qu'on peut encore revoir actuellement, hein, qui est colorisée maintenant, mais qui à l'époque était en noir et blanc. Alors il faut savoir également, et ça c'est un petit quiz, quel est le nom du cheval de Zorro?
Tornado.
Voilà, oh, mais c'est le cheval noir. Il a un autre cheval.
Il a un cheval de jour.
Cheval de jour, blanc.
Et comment s'appelle-t-il?
Waitune.
Ah, il s'appelle Fantôme. Voilà, bon, déjà, vous êtes mauvais. Alors, ensuite, au déboté, dans le désordre, et là, bah, on va reconnaître beaucoup de gens hein, qui sont devenus des acteurs relativement connus, qui sont toujours là, ou bon, bah, qui sont malheureusement décédés. Alors, en 66, l'âge heureux, suivi de l'âge en fleurs. Et ça, c'était une série qui était vachement suivie. Pourquoi? Ça raconte l'histoire de Delphine, un petit rat de l'Opéra de Paris, qui a été choisi pour être danseuse étoile d'un nouveau ballet. Ça a démarré en février 66, donc sur la première chaîne, avec 4 épisodes de 52 minutes, ou, selon le découpage, 8 épisodes de 26 minutes, ou 16 épisodes de 13 minutes. Si, si, c'est vrai.
Ouais, ça devait être le bordel.
C'est le scénario de Odette Joyeux, ex danseuse étoile, avec Delphine Desieux, Françoise Roset, Pierre Mondy, Marc Villalonga, Louis Vell et Michel Lebrun. Ensuite, ouais, il y avait également Au nom de la loi, Wanted Dead or Alive. Celle-là, elle est bien culte, ça y a pas de problème. Hein. Elle a démarré quand même très très haut. Hein. Elle a démarré en mai 63 avec 94 épisodes de 25 minutes et avec au niveau bon, Steve McQueen bien entendu, ouais, mais également des guests relativement connus, Lee Van Cleef, Warren Oates, James Coburn, Martin Landau. Ensuite, il y avait une autre série étrangère américaine qui était aussi pas mal, qui s'appelle Aventure dans les îles, 91 épisodes de 50 minutes dès le début des années 60, en février 61, avec le capitaine Troy. Si, si, rappelez-vous, ceux qui sont de ma génération là, ou qui ont grandi dans les années 60, se souviennent du capitaine Troy interprété par Garner McKay, avec comme guest Julie London, hein, c'est la chanteuse qui nous a fait Cry Me a River, David Johnson, Le Fugitif, Yvonne De Carlo, Paulette Godard, et il y avait également une autre série dont je vous ai déjà parlé, parce que moi c'est une série qui m'a beaucoup marqué, que j'aimais beaucoup, hein, quoique c'était assez incompréhensible, hein, bon, j'étais très très jeune quand même, quoi, mais qui a beaucoup marqué, c'est Le Virginien, The Man from Shiloh, 225 épisodes de 75 minutes et 75... Oh, voilà, voilà le générique.
Non, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de galérer dans ma banque. Et là, j'étais prêt.
Et ça a démarré sur la deuxième chaîne, en janvier 66, avec James Drury dans le rôle du Virginien, mais il y a également Lee Jacob, qui est le patriarche un petit peu hein, du ranch Shiloh, Doug McClure, qui joue le rôle de Trampas, et le tout jeune Tim Matson. Et on a envoyé apparaître comme guest Robert Redford, James Farantino, Charles Bronson. Bronson qui, vous allez voir, on a fait beaucoup hein, des séries. Ensuite, on se souvient bien entendu, hein, malheureusement, c'est devenu un film... assez nul et complètement sponsorisé par l'armée de l'air, Tanguy et la Verdure, issu de la bande d'une bande dessinée en plus. Hein,
Les Chevaliers du Ciel.
Eh oui, Jacques Santi et Christian Marin. À partir de septembre 67, 39 épisodes de 26 minutes. Il y avait également Roger Pigot, Jacques Richard, José Luis de Villalonga et une petite jeunette qui allait devenir célèbre un peu plus tard dans les années 70, Marlène Jobert. Et autre série à être issue d'une bande dessinée, et celle-là, une bande dessinée qui a continué, et je crois qu'il existe toujours, c'est Vroom Vroom, qui a donné aussi
Michel
un film
Vaillant,
tout
pourri. Vaillant.
Ouais, ouais, Michel Vaillant. Et qui là a été très scrupuleusement,
elle continue effectivement la série.
Ouais, ouais, non, mais la série dessinée, hein, attention, hein, et qui a été très scrupuleusement, chapeautée par Jean Graton, c'est-à-dire le créateur de Michel Vaillant, hein, qui tenait à ce que ce soit fidèle. Alors, Michel Vaillant est interprété par Henri Grancier. À ses côtés, on a bien sûr les petites jeunettes, Claudine Coster. Il y a également Moni Dalmès, Bernard Deran. Et avec la participation de vrais pilotes de course de l'époque. Jim Clark, Jack Brabham, Mauro Bianchi, Jackie Hicks, Jean-Pierre Beltoise,
comme
qui apparaissait dans cette série.
Tout ce qu'il faisait dans ses bandes dessinées, il a pu le faire, voilà, pour le petit écran à l'époque prestigieux. Quoi.
Tout à fait. Rintintin aussi, rappelez-vous, ça aussi, ça a été un gros truc, énorme, Rintintin. Dont le, vous savez quel est le vrai nom du chien qui interprétait Rintintin?
Il y en a eu plusieurs.
Ouais, mais
et
le
c'était
premier.
C'était une chienne.
Et oui, c'était une chienne. Et la première s'appelait comment?
Je cherche.
C'est pas marqué dedans.
Ah, je
sais. C'est pas marqué dedans.
Je sais pas. Plus
Rintintin Canef Cop.
Non. Pal s'appelait, tout simplement Pal, c'est-à-dire le pote. Et c'est pour ça que bon, une marque de nourriture pour chien a décidé de s'appeler comme ça.
Et on n'a pas été payé par Régie Pub. Non, mais attends, on fait le placing là, uniquement comme
ça. Eh ouais. Avec, bien sûr, à part Pal dans le rôle de Rintintin, Lee Eckers qui jouait Rusty, James Brown, ça s'invente pas, dans le rôle de Rip Masters. Rip Masters, c'est le lieutenant, hein, c'est celui qui chapeautait l'autre, et le sergent Biff O'Hara interprété par Joe Sawyer. On reste dans le monde du western, ça, des séries western, il y en a eu pas mal, hein. Roy Rogers, qui lui était un cow-boy chantant, hein, c'est-à-dire qu'il jouait la comédie, il est apparu dans un nombre assez incroyable de films dans les années 40 et 50, sous le nom de Roy Rogers, hein, avec son cheval qui s'appelait Trigger, c'est-à-dire la gâchette, en version française. Et Roy Rogers apparaissait donc dans cette série qui a quand même tenu pas mal, hein, qui a paru sur la télé française en mars 62, 100 épisodes de 25 minutes. Roy Rogers qui interprétait donc son rôle avec Dale Evans, sa partenaire féminine, qui est également sa femme à la ville. Une autre série qui était marquante et qui vraiment qualitativement a été l'une des meilleures de la décennie, en ce qui concerne la production française bien entendu, c'est Vidocq. Attention, il y a eu deux époques de Vidocq. Ouais. Je parle de la première époque de Vidocq, 13 épisodes de 26 minutes à partir de janvier 67, interprété par le très grand et regretté Bernard Noël, qui est mort au début des années 70. À côté de Bernard Noël dans cette série Vidocq, hein, cette histoire de bagnard qui devient chef de la sûreté de la police de la police au 19e siècle, à côté de Bernard Noël, Jacques Seiler, Geneviève Fontanelle, et comme invité on avait Serge Gainsbourg, Jacques Baudouin entre autres dans cette série Vidocq, qui a donné lieu à de nouvelles aventures de Vidocq à partir de janvier 71. Et là, les nouvelles aventures de Vidocq, c'était un rendez-vous mais inamovible, c'était tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs, on se rappelle que il y avait une autre émission qui avait lieu tous les mardis soirs, mais dans les années 60, c'était les dossiers de l'écran.
Oui, mais c'est resté très longtemps, jusqu'au début des années 80, le mardi.
Je parle des années 60.
Oui, mais c'est resté le mardi.
Non, ça a été décalé après. Ouais, justement, ça a été décalé, quoi. Et à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, parce que les gens s'étaient vraiment habitués à avoir leur case un certain jour pour regarder cette émission. Hein, on se rappelle des grosses polémiques au sujet de
ça claquait hippies, souvent sur le plateau.
Bon, ouais. Messieurs les censeurs, je vous salue bien. À propos d'une émission d'un dossier de l'écran sur l'homosexualité. Enfin bon, pas mal de
On
de
repasse
choses
de suite
sympa.
À SVP 11.
Voilà, participation hein, des téléspectateurs.
C'était
bien
sûr. C'était pas du SMS plus, et c'était gratuit à l'époque.
Et donc les nouvelles aventures de Vidocq ont commencé. C'est en janvier 71, le mardi soir, avec, pour remplacer Bernard Noël décédé, Claude Brasseur, hein, dans le rôle titre. Il y avait également Daniel Lebrun et Pierre Tornade, ainsi que Jacques Seiler, hein, toujours présent. Une autre série, et là, le générique était assez marquant quand même. Ça fait... les Globetrotters, avec celui qui allait devenir le commissaire Moulin dans les années 80, Yves Régnier. Et oui. Edouard Mix, hein, qui jouait le rôle de reporter, hein, qui était embringué dans des histoires un petit peu pas possibles, un petit peu à travers le monde. 39 épisodes de 30 minutes à partir d'octobre 66. Différents scénaristes, dont un certain Jean-Patrick Manchette pour les Globetrotters. Eh oui. Ensuite, une des séries qui a également, on peut dire marqué mon enfance de toute façon, c'est bien entendu Ivanhoé. Ivanhoé qui a démarré très tôt, en avril 1959. Je parlais des années 60, mais là c'était en avril 59 et ça a été rediffusé par la suite dans les années 60 avec Roger Moore dans le rôle titre ainsi que Robert Brown dans le même style. Et on peut dire que bon, ça a été un petit peu la réponse du berger à la bergère, hein. C'est Bayard, le chevalier Bayard, bien sûr, notre Ivanhoé français, avec René Roussel dans le rôle titre, à partir de janvier 64, 13 épisodes de 26 minutes. Et on y trouvait également un certain Victor Lanoux dans ce chevalier Bayard.
Avec ou sans moustache.
Ensuite, un petit peu dans le même style, hein, c'est-à-dire de cap et d'épée, mais là, sur la mer, c'était les corsaires. Ah ouais, ça c'était vraiment très très bien. À partir de septembre 66, 13 épisodes de 26 minutes, Michel Leroyer dans le rôle principal. Il y avait également la très belle et très jolie Geneviève Page, ainsi que Christian Barbier. Rappelez-vous, l'homme du Picardie.
Oh, punaise.
Il y a Belle et Sébastien également, hein. Alors Belle et Sébastien, c'est issu C'est issu d'un roman de Cécile Aubry, et avec dans le rôle principal, bien entendu, Mehdi, hein, Mehdi El Glaoui, qui était le fils en fait de Cécile Aubry, un fils qu'elle avait eu avec un prince marocain. Et avec également la participation de Pierre Massimi et le chien hein,
formidable
qui s'appelle
Flanker,
voilà,
formidable, le chien
Belle et Sébastien, qui était suivi de Sébastien parmi les hommes, et ensuite de Sébastien et la Marie Morgan. Re-western avec bien entendu Bonanza et les aventures de la famille Cartwright, 430 épisodes quand même, hein, de 50 minutes de à partir de janvier 65, c'est à la télé française, hein, chaque fois, hein, les démarrages de diffusion. Lorne Greene, bien entendu, hein, dans le rôle titre, c'est le patriarche de la famille Cartwright, avec Michael Landon, qui allait nous donner La Petite Maison dans la Prairie. Tim Matson, encore lui. Et alors, au niveau des guests, laisse tomber, c'est pas la peine. Charles Bronson, encore lui. James Coburn, Yvonne De Carlo, Bruce Dern, Jodie Foster, Lee Van Cleef, Kate Jackson, Stephanie Powers, Leonard Nimoy, Telly Savalas, Robert Vaughn. Et j'ai mis des points.
Jodie Foster, bon, elle devait être toute jeune.
Ah oui, oui, toute petite, hein, toute petite. Une autre série française qui était assez intéressante et qui a révélé un acteur qui allait également être partie prenante d'une des très grandes réalisations de la télé française dans les années 70, dont on a pu voir une rediff, enfin non, une nouvelle version, pas plus tard qu'hier soir, mais la version toute pourrie de José Dayan, Les Rois Maudits. C'est Claude Giraud dans Les Compagnons de J.U. en 26 épisodes de 13 minutes ou 6 épisodes de 52 minutes à partir de septembre 66, et on y trouvait également Bernard Fresson et Pierre Clémenti. Il y a une chose qui m'a toujours marqué dans les années 60, c'est la confusion que j'ai faite à propos de Patrick McGowan, qui bien entendu a été rendu célèbre dans cette série culte qu'est Le Prisonnier.
Hein,
Le Prisonnier, qui a été diffusé à partir de la fin des années 60, je crois en 68, 67, en 68, oui en 68, hein, parce que ça a démarré pratiquement en même temps que les événements de mai 68. Mais Patrick McGowan, avant cela, eh bien, avait tourné dans une autre série, ça s'appelait Destination Danger, 39 épisodes de 30 minutes,
qui avait été
diffusé.
Qui d'ailleurs, d'ailleurs, il ne l'a jamais dit. Il a laissé toujours laissé courir la rumeur comme quoi ça aurait été la suite.
Ouais, mais
de
justement, moi, étant jeune, je croyais que John Drake, hein, le héros de Destination Danger, en fait, était le même que celui qu'on retrouvait dans Le Prisonnier, que John Drake justement, il se retrouvait emprisonné dans ce village et tout, et puis je comprenais pas pourquoi il voulait pas dire son nom, d'où il venait et tout, parce que on le savait vu qu'on avait vu tout ce qui se passait dans Destination Danger. Alors bon, ça a été, mais quand même très très bonne série, hein, Destination Danger, et très très ancienne, hein, qui a commencé, qui a été édite. Enfin, diffusé par la télé anglaise vers la fin des années 50. Ensuite, là, j'ai cherché vraiment les trucs dans les tréfonds de trucs pas possibles et tout. Les dossiers de l'agence O, 13 épisodes de 55 minutes, scénario et réalisation Marc Simenon, le fils de l'autre, et également Jacques Lanzmann au scénario. Ça a démarré en mars 68 avec Pierre Tournade, Michel Robin, Marlène Jobert et Noël Roquevert. Et comme guest, alors ils apparaissaient souvent en double par épisode. Il y avait
Gainsbourg
avec Chantal Goya, Jean-Roger Cossimon avec Paul Prébois, Marcel Daliot avec Achille Zavatta. Marcel Daliot qui, lui, était un vétéran du cinéma. Mmh. Hein, il a tourné avec Bogart dans les années 40. Hein, Marcel Daliot, Mylène de Mongeau, Jean Servais, Maria Pacôme, Pierre Mondy, tout ça dans les dossiers de l'agence O. Alors Thierry Lafronde, faut quand même un petit peu l'évoquer quand même, hein, parce que ça aussi c'était une réplique un petit peu française à Robin des Bois. Hein, il y avait une série Robin, il y a eu plusieurs séries Robin des Bois d'ailleurs, initiées par la télé britannique. Et là, c'est le rôle qui a quand même tué la carrière artistique de Jean-Claude Drouot, il faut le dire. Ne lui parlez pas si vous le rencontrez, Jean-Claude Drouot. Ne lui parlez pas de Thierry Lafronde. Il en a ras la casquette, de toute façon. Avec, parmi ses acolytes, Clément Michu, Robert Rollis, Céline Léger. Ah ouais, la belle Isabelle, Francis Lax, qui après, nous a fait beaucoup de voix, soit de doublage, soit de dessin animé. Hein,
ouais,
ça a été
le spécialiste
avec Jacques Balutin, hein, des voix de doublage. Pierre Tournade. Et cette musique, tu sais de qui elle est?
D'un type
qui a été très connu et qui était un des précurseurs de la Easy Listening Music.
Non, tu veux dire le fondateur du GRM, le...
Ben justement, j'étais dessus, Pierre-Henri.
Non. Easy Listening, pas la musique contemporaine.
Non, c'est pas du dodécaphonique.
C'est Jacques Loussier. Loussier qui après a fait une super carrière, qui allait s'installer à Hollywood et tout, hein, qui a épousé une super actrice, je me rappelle pas son nom, mais qui est plus connu d'ailleurs aux États-Unis qu'en
Loussier
France.
Loussier faisait de la musique contemporaine avant.
Oui, aussi, mais il a signé beaucoup de génériques et beaucoup de musique de films aussi. On va bien sûr évoquer Flipper le Dauphin. Hein, bien sûr, faut évoquer Flipper le Dauphin, 88 épisodes de 25 minutes avec Brian Kelly et ses deux fils, Luke Alpine et Tommy Norden, ça c'est le nom des acteurs bien entendu. La série s'est arrêtée parce que le dauphin est mort et donc ils n'ont pas voulu continuer, n'ont pas voulu le remplacer, tout simplement, hein, parce qu'il faut savoir que Rintintin, ça s'est pas arrêté, mais le chien a été remplacé à 3 reprises. Mais là, ben, la série s'est arrêtée parce que le dauphin, qui était une dauphine d'ailleurs, s'appelait Suzy. Il y avait également le pélican qui s'appelait Peter et le chien qui s'appelait Spray. Et dans cette série, on a pu voir apparaître Burt Reynolds et David Soul. Une autre série qui a bien marqué les années 60 et surtout le début des années 60, c'est Le Temps des Copains avec Henri Tizot et Claude Rollet, qui a quand même duré très très longtemps. Alors le format très court et qui était placé en ce qu'on appellerait maintenant le Access Prime Time, à savoir à 19h30, 19h40, 116 épisodes donc à partir de octobre 61. Et une autre série d'aventures française, entièrement française, mais tournée en extérieur et tournée en Somalie, c'est Les Secrets de la Mer Rouge, d'après l'œuvre de Henri de Montfred, interprété par Pierre Massimi, à partir de mai 68, 26 épisodes de 26 minutes. Et ça retrace donc l'histoire vraie de Henri Montfred, hein, qui était un aventurier et qui allait du côté de la Somalie, l'Éthiopie et tout ça. Et la série a été entièrement tournée dans ce qu'on appelait dans le temps, ce qui est devenu la Somalie et qui s'appelait avant le territoire des Afars et des Issas. Et il y a même le fameux épisode et tout qui, à l'époque, on s'en foutait, c'était historique, donc on s'en foutait, où Henri de Montfred, à un moment, il a fait du trafic de hashish et tout, quoi, hein, puisque bon, il se baladait avec son bateau sur la mer Rouge et puis bon, il transportait tout ce qu'il pouvait transporter, voilà, quoi, que ce soit licite ou illicite, des armes, du shit, tout ce que tu veux, sans problème. Et c'est passé, il y a un épisode, ça passe comme une lettre à la poste, hein, à l'époque, on savait pas trop ce que c'était, c'est vrai, c'était pas trop
répandu. Marijuana, ce fléau pour notre jeunesse.
Une autre série, là, qui est vraiment passée à l'as, et dont plus personne ne se souvient, ça c'est clair, c'est Le Gant de Velours, hein, une histoire de flic qui se passe à Los Angeles, et le rôle principal était interprété par Leslie Nielsen, 36 épisodes à partir de juillet 67, avec Charles Bronson, Telly Savalas, Peter Falk, dans des seconds rôles. On a toujours dans les westerns, là ça a été... Le truc phare, le truc qui a duré hyper longtemps, 442, c'est pratiquement un soap, quoi. 442 épisodes de 32 minutes. Et après, 32 épisodes de 90 minutes à partir de juin 64. Sur la deuxième chaîne, c'est, la grande caravane. Avec Ward Bond au départ dans le rôle, puis John McIntyre, et Barbara Stanwyck. Et comme guest star, eh bien, il y avait John Wayne qui n'est pas apparu sous son nom d'acteur, c'est-à-dire John Wayne, mais sous un pseudo Michael Morris qui se rapproche un petit peu de son vrai nom, hein, c'est-à-dire Michael Marion Morrison. C'est le vrai nom de John Wayne. Mais il y avait également au rang des guest stars Bette Davis, Angie Dickinson, Mickey Rooney, voilà, Charlofton, non, parce que je mets les initiales, et puis Charlofton, Peter Lorre, Lee Marvin, et un certain Ronald Reagan également, dans la Grande Vallée, dans la Grande Caravane. Autre western, c'est la Grande Vallée, bien entendu, hein, The Big Valley, 112 épisodes de 50 minutes à partir d'octobre 68 sur la deuxième chaîne, avec Barbara Sandwick, encore elle, et Richard Long, et on voit apparaître un certain Lee Majors, ainsi qu'une certaine Linda Evans.
Dans son opération esthétique.
Eh oui.
Je parle de Imagers, bien sûr.
Une des séries qui a très, 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 très bien marché dans les années 60 et qui a d'ailleurs été vendue dans d'autres pays. C'est assez rare à l'époque, hein, pour le signaler. C'est Les Saintes Chéries, dont le scénario et la réalisation étaient de Jean Becker, avec Micheline Prel, bien sûr, et Daniel Gélan, hein, Marc Mercadier. Et comme guest, on avait Jean-Yann, Dany Saval, Madame Michel Drucker, Romain Bouteille, Jacques Higelin, Jean Carmet, donc dans les Saintes Chéries, diffusé à partir de décembre 65, mais qui a vraiment duré pas mal parce qu'il y a eu des rediffs, quoi, c'est-à-dire la série s'achevait, hop, ben on rediffusait quoi, de nouveau derrière et tout, parce que le public voulait toujours de la Sainte Chérie. Mais bon, les gens avaient décidé de faire une croix dessus, surtout Daniel Gélin qui commençait à en ras la casquette et qui voulait quand même faire autre chose que de la télé, qui se disait, le cinéma c'est aussi assez intéressant. Le Saint également, avec Roger Moore, tiré de l'œuvre de Leslie Charteris, qui a été la première série achetée par la deuxième chaîne. En mai 64, à partir du début de diffusion officielle de cette deuxième chaîne.
Pourquoi justement la personne qui s'est fait appeler le Saint se fait appeler le Saint?
Parce qu'il a une auréole.
Non, c'est parce qu'il il avait pas de parents, il était dans un pensionnat où en fait, comme ils avaient pas de nom, on leur donnait des noms de saints.
Pas du tout.
C'est dans le roman.
Non. Enfin là c'est marqué, hein, noir sur blanc. C'est en fait à cause de ses initiales, parce que
Simon Templar, ST. Oui, mais Simon Templar est un vrai saint.
Peut-être, mais ouais. C'est à cause de ça qu'on l'a appelé le saint dans la série. C'est la question que je vous ai posée.
Non, voilà. Non, mais t'aurais dû lire les romans.
Le saint dans le... qui sont assez chiants, moi, je trouve, quoi. C'est mon avis personnel. On y trouve également en guest starring Donald Sutherland et Honor Blackman. Honor Blackman qui a été la première...
James Bond girl.
La première dans les Avengers, bien sûr.
Ah oui,
c'est la première.
Et elle a été. Elle a pas été James Bond girl. Elle a été méchante dans un James Bond.
Ouais. Une autre série française qui a bien marqué aussi, tirée de l'œuvre de Ponson du Terrail, c'est Rocambole, qui a quand même duré vachement longtemps, 78 épisodes de 13 minutes avec Pierre Vernier dans le rôle titre, et qui a également commencé dès le début de la deuxième chaîne en avril 64. Il y a, pour terminer, Jean de la Tour Miracle. Alors là, celle-là, vous pouvez toujours courir pour essayer de vous la repasser. Pourtant, Jean de la Tour Miracle était interprété par un certain Patrick Morin, dont l'autre nom était Patrick Dewaere. Il y avait également Jacques Balutin, Ludmilla Michael. 13 épisodes de 26 minutes seulement pour cette série qui se passait dans le Béarn et qui opposait justement à l'époque des guerres de la guerre de religion, eh bien les catholiques aux hérétiques, c'est-à-dire les protestants. Et ça raconte également l'histoire de Patrick Dewaere, Jean de la Tour Miracle, qui est vachement copain et qui aimerait bien faire plus avec sa copine, mais seulement ils sont pas de la même religion.
Alors Madeleine de la Castilla, qui est une fille d'hérétique.
Fille d'hérétique, te rends pas compte.
Non, ça, mais là tu triches, t'as pris son bouc.
C'était à partir de décembre 67.
Sans vergogne.
Mais c'est pour ça que j'ai ramené, pour pouvoir contrôler. Pour pouvoir contrôler, quoi. On termine avec une série qui m'a pas très beaucoup marqué, mais pourtant qui a marqué la télévision. Pourquoi? Parce que c'était une série à rallonge dont on a fait des déclinaisons en veux-tu, en voilà, encore interprétée par Mehdi, le fils de Cécile Aubry, qui nous a fait le Sébastien de Belle et Sébastien.
La suite de Belle et Sébastien?
Non, c'est Polly. Le petit poney, Polly, rappelle-toi, Mehdi avec un petit poney. Avant, il était avec un chien. Ensuite, on a dit, il marche bien avec les bêtes, celui-là. On va le foutre avec un poney. Le poney s'appelait Polly.
Non, mais je veux une vraie fille, moi.
Il y a eu 78 épisodes de 13 minutes, plus 39 épisodes de 26 minutes. Et pourquoi? C'est parce qu'au départ, il y a eu la série originale Polly. Et ensuite, il y a eu les vacances de Polly. Ensuite, il y a eu Polly et le secret des 7 étoiles. Polly au Portugal. Au secours, Polly, au secours. Polly et le diamant noir. Polly à Venise, Polly en Espagne et enfin Polly en Tunisie.
Et pour savoir là, le vrai nom du poney, vous saviez?
Non, vas-y.
Polly.
Polly, oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, Polly le poney, de toute façon, quoi. Voilà donc un petit aperçu de ce qu'on pouvait voir à la télé. J'ai occulté, je vous le rappelle, j'ai quand même occulté les séries vraiment cultes qu'on connaît, c'est-à-dire qui sont surtout apparues d'ailleurs vers la fin des années 60, je parlais de Mission Impossible et des petites choses comme ça qui sont apparues,
ce qu'on appelle l'âge d'or,
vraiment ça commence à être bien intéressant. Mais il y a eu plein d'autres séries, bien sûr, j'ai dû faire un petit choix, quoi, parce que sinon j'y serais encore jusqu'à 13h.
jusqu'à 14h quoi. Donc j'ai essayé de mettre quand même un petit peu la pédale douce et bon, ça nous ça me rappelle le bon temps où il y a vraiment il y avait pas de pub à la télé et c'était quand même vachement bien quoi.
Ça c'est du Pierre-Henri.
Bon, la télé dans les années 60, hein, c'était bien évidemment, on a parlé des dossiers de l'écran, mais il y avait également les il y avait également les rendez-vous, surtout dominicaux. La séquence du spectateur à 12h30, les rendez-vous du dimanche, ça c'était, on peut dire, une espèce de musical. C'était du musical.
C'était le générique qu'on a passé tout à l'heure. Voilà.
Ouais, ouais, c'était du musical en fait, du musical télévisé. Hein, c'est-à-dire que il y avait une scène, un rideau, il y avait un présentateur et tout.
Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau ?
Et qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau ? Et c'était animé par Jean Nouin, qui avait fait une carrière à la radio avant de faire la télévision et qui avait également fait du cabaret.
C'est pas Pascal et Fontaine ?
Non. Attends. Respect.
On essaie de la placer depuis tout à l'heure.
Respect. Et donc on a vu apparaître beaucoup de ceux qui sont devenus des vedettes par la suite. À savoir, on a vu les débuts de Mireille Mathieu, par exemple. On a vu les débuts de beaucoup d'autres personnes. Et on a vu aussi, eh bien, des acteurs qui, dans les années 50, eh bien, étaient spécialisés dans le cabaret et qui ont pu faire une percée à la télé, puis après au cinéma. Hein, c'est-à-dire Michel Serrault, Jean Poiret, j'en passe et des meilleurs. Enfin bon, toute cette série de d'acteurs, de grands acteurs français. Hein, qui bon, ont vraiment marqué notre époque et qui bah, faisaient leur début dans des petits sketchs comme ça. Quoi. Comment ?
Je vais essayer de trouver les autres. Mondi, Briali, enfin tous ceux qui.
Toute la série, hein, quoi, de toute façon. Il y avait également des émissions un petit peu plus sérieuses et tout, telles que Les coulisses de l'exploit, telles que 5 colonnes à la une, hein, une des premières émissions, on va dire un petit peu sérieuse de la télé française, animée par Pierre Desgroupes entre autres, hein, qui parlait de livres, qui parlait de sorties théâtrales, qui parlait de sujets de société, enfin bref, un vrai, pratiquement un talk show, mais un talk show quand même d'un autre niveau de ce qu'on peut voir actuellement, hein, ça sans problème, hein, parce que bon bah c'était pas animé par des humoristes et par des gens chargés de faire rigoler la populace.
Ouais, c'est ce qui vaut guère mieux finalement qu'un télétrottoir.
Ouais, il y avait également parmi les émissions cultes, La caméra invisible, bien entendu, hein, avec Jean-Paul Roulant. Il y avait également plein d'émissions, hein, qui étaient assez aisément regardables, hein, mais bon, la télé est devenue ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue, eh bien, on vit avec les souvenirs, c'est tout. Hein.
Oh non.
Désolé. Bon, allez, ok, je mets autre chose.
Remets le Pierre-Henri plutôt là.
Bon. Programme où on arrête là, je crois, c'est tout.
Ouais, d'accord. Je veux juste rajouter que c'est aussi une décennie. On a vu certainement l'un des meilleurs dessins d'animation de tous les temps, les Shadok.
Ouais.
Hein.
Ouais, là.
De ne pas oublier. Qui était un rendez-vous que personne ne ratait, hein, avec la magnifique voix de Claude Pieplu.
Et magnifique pour calmer les enfants les plus perturbants. Je peux vous dire que des générations de nounous ont été super heureuses de l'édition VHS. Ça marche, mais d'enfer.
Ouais. Et qui était diffusé le soir, juste avant le journal télé.
Il est pas dans ton bouquin.
Ah non, on en parle pas.
C'est une animation.
Bah oui, je sais bien.
Animé.
JB, peux-tu faire s'il te plaît le résumé pour tous ceux qui ont pris l'émission cours de route, hein.
Mais bien sûr.
Il faut que tu l'improvises le résumé.
On a un placing commercial.
Non.
Attends, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est qu'il y a beaucoup de séries aussi, quoi, qui sont antérieures aux années 60, qui ont été créées dans les années 50. Voire 60, mais qui n'ont jamais eu de diffusion à la télé française, sinon bien plus tard. Alors la plus connue est Star Trek, qui a commencé à 66, mais qui n'a été diffusée que 10 ans plus tard sur la télé française. Il y en a d'autres qui ont attendu encore plus longtemps pour être diffusées. Rawhide, entre autres, qui n'a jamais été diffusée dans les années 60. Beaucoup de
grosses séries américaines. Hein, il a fallu attendre des fois les années 80, la 5 ou Canal Plus pour pouvoir des diffusions de séries qu'on n'avait jamais vues dans les années 60 ni dans les années 70.
Nom d'un placing commercial du sport, tu as réussi à placer toutes ces séries-là. Heureusement, grâce à la diffusion différée et Toc Xavier, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides.
Qu'on a ouvert avec le premier quiz, c'est un vieux quiz qu'on avait fait il y a 3 ans, c'est Luc Besson va trop vite, avec une vidéo qui est tombée fort opportunément, qui est celle de Mosinor sur Luc Besson. Je vous invite à regarder.
D'accord.
C'est à quelle adresse?
Elle est tout simplement sur sur notre site web suppléments-weekend.fr. Vous écoutez FMR sur 80.1 MHz, nous sommes en direct, comme vous pouvez tout à fait le comprendre, et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net, d'où là nous couperons tous nos balbutiements.
On voit, non pas du tout, dans le prochain épisode ce sera le tirage des rois et la personne qui aura la fève aura le plaisir d'aller chroniquer LOL, le film, le placing commercial de MSN avec Sophie Marteau, Chris Arzeré et Alexandre Astier, ils sont allés foutre là-dedans. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci à vous, encore bonne année, bonne santé et nos meilleurs voeux de bon plaisir à lire des BD, à regarder des séries, à voir des films et à jouir de la crise. Allez, ciao, bye bye
à tous.
Et merci pour cette première diffusion en stéréo sur FM 89.1 MHz et en une partie en stéréo seulement pour ceux qui nous écouteront sur le podcast.